On reprend, on reprend le texte. Donc là, il y a énormément de commentateurs sur, sur la Gada, sur ce passage. Que le Achida va commenter, c'est le passage que je proposais de vous faire, de vous amener, que M. Mouchel Koufi nous a photocopié gentiment. Il dit la chose suivante. La première page que vous avez, le premier document, le Achida va poser des questions. Il dit la chose suivante. Bah, Gada, d'abord le titre. Arbat Abanim Varbat Geluyot. Les quatre enfants, sous-entendu les quatre enfants, c'était Malagada, et les quatre exils du peuple juif. Bah, Gada, chez le Pessa, je lis. Vous voulez un crayon ?
Non.
Comment ça ne marche pas, là ? Gada, chez le Pessa, nous nous sommes collés, veombrim. Dans la Gada de Pessa, on élève nos voix et on dit la chose suivante. Baruch Hamakom Baruchon. Baruch Shatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu Miyad, Anu Masmichim, Et She'elotehem, Veteshuvotehem, Shel Arba'at Abanim, Chacham, Verasha, Atam, Ve'eshenu Yoda Lishol. Donc le Rav, le Chida pose la question, il y a une juxtaposition dans la Torah entre deux psukim qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un, comme on va parler, un Shevar Takadosh Baruch Hu, Baruch Makom, Baruchou, Makom c'est Kadosh Baruchou, hein, le lieu. On avait expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Baruchou, Baruch Shantam Israël, Shantam Israël, Baruchou. Si vous lèvez, regardez bien, il y a marqué quatre fois le mot Baruch. Hein? Quatre fois le mot Baruch. Et juste après, on a les quatre Keneged, Arba Banim, Dibra Torah, Veloé, Echat Racham, Echat Racha, Echat Tam, Echat Chenon, Yodal Lishor. Ok, l'Europe continue, il pose la question. Elle est, elle a. C'est souma, allez nous les bonen, les yeshef, kama ve kama tmiot, a olot, bema amarze. En fait, si on réfléchit bien, on a pas mal de surprises lorsqu'on se penche et on regarde ce texte de la Haggadah, ces deux textes qui nous ont été mis par le Baal Haggadah, d'accord, qu'on doit lire ce soir-là. Premièrement, Réchit. C'est vrai, Manou les avis, on devrait comprendre, recomprendre. Mamakom le barer et pitom birkot haTorah beemtsa amirat haAgada. D'accord? Le fait de dire Baruch Hamakom Baruch Baruch Shatan Taro Lamo Israël, c'est une bracha qu'on a fait le matin. Tous les matins on le fait cette bracha. D'accord? Voilà ce qu'on appelle. Dans les berkets haShachar, dans les 18 brachas du matin, oui. On a une bracha chez Anotem Torah. Oui. Non, le matin. Quand vous levez les mains, ce qu'on appelle Birkat HaTorah. Pourquoi on fait cette bracha le matin? Pour être poter toute la journée, de pouvoir étudier la Torah sans avoir fait une bracha des gens. Voilà. Viens maintenant le Chida, là. Je lui pose la question. Cette bracha, je l'ai fait le matin. Le matin de Pessah, je suis posé l'avoir faite. Pourquoi la Gada me demande de le refaire? Pourquoi on va la pépiton maintenant en plein milieu? D'accord?
Mais là, on est la nuit. On est déjà l'autre matin.
Peu importe, il va le dire. Non, mais même quand vous étudiez. Je dis même la nuit, vous vous basez sur la tefila que vous avez fait le matin, et elle couvre la nuit aussi. Je crois que vous alliez dormir. Quand vous allez dormir, vous faites une scalpelle, une afsaka, c'est afsek d'après l'alaha, vous vous obligez quand vous levez, à vous laver les mains, et à vous refaire encore la bracha des berkat à Torah, pour pouvoir réétudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier si on n'a pas dit cette bracha-là. Madoua anu potrim, le feta veombrim, pourquoi on démarre comme ça, de façon pitomite, de façon brusque, comme ça, et on dit « Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël » en plein milieu de la Gada. Question. « Vima yeta nitkenet brachazo betrilatash al Gada » Si cette bracha avait été placée au début de la Gada, j'ai entendu, avant de démarrer le limout, comme disait monsieur, d'accord, dit le Rav, j'aurais pu comprendre, c'était pas si compliqué que ça, de la mettre au début, puisqu'on va étudier toute la nuit, d'accord. Agam shadaim ayenu tzrichim laavin madua lo tiftoch barkot haTorah shebirchanu baboker et limud haTorah shebaerev. Bien que là aussi on aurait pu se poser la question que vous avez posée, vu qu'on a fait la prière le matin, on a fait la bracha le matin, pourquoi on est quand on la refait maintenant avant la bracha, avant la Haggadah? Vous avez compris. Ulamata shabracha nitkena beemtsa Haggadah tigdal atmiya. Puis kama ve kama, maintenant qu'elle a été mise en plein milieu de la Haggadah, ça multiplie encore les questions et l'étonnement par rapport à ce qu'a voulu nous enseigner le Baal Haggadah. Il continue. Ve'agam, shebrachazo, ena bracha. C'est pas une véritable bracha, dit le Rav. Pourquoi c'est pas une bracha? Quoi? Parce que Mishum Shein Ba Hashem Umalchut. Une vraie bracha se construit. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ta ta ta. Là, cette partie-là, ce qu'on appelle bracha de Hashem Umalchut, Hashem Umalchut, Hashem Elokeinu, d'accord, Melech Haolam, ne figure pas. Donc, c'est pas une vraie bracha. Encore une question. Im Kol Zot, même si ça figure pas comme ça, c'est vrai. Manu Leavin, Madua Niknea, Leom Rav et Maman Komze. Pourquoi elle a été instituée? Pour qu'on la dise à ce moment-là. Chénit, deuxième question. C'est vrai, Manu Leavin, on devrait comprendre, on doit comprendre, Madua, Nitkenu, Babracha, Zo, Arba, les Shonot, Shel Bracha. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, Baruch, c'est écrit en gras. Baruch, Amakom. Baruch, ou Baruch, Shonot, Am Israël. Baruch, ou. Et là, Daï, Babracha, Achad, Liftor, et Adam. Mais Berkot, Torah. Sous-entendu, vous aurez pu dire, on peut dire un Baruch, et coller tous les autres. Les
mettre en facteur.
Voilà, bravo. D'accord? Et on n'a pas besoin de répéter le barou. Ot srichi manu leavin. Dernière question qu'il pose. On doit aussi comprendre l'inyan arbat abanim. Qu'est-ce qu'il vient faire avec les quatre enfants juste après? De telle manière que je comprends du premier pasouk qu'il y a un lien avec le deuxième pasouk. Baruchou, donc le shevar que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, il est lié, d'accord, au arbabanim dont la Torah nous parle et qui sont censés représenter le peuple juif. Regardez, Simoulev, que la Gada nous parle de quatre arbabanim. Keneged arbabanim. Tout le peuple juif est là. Tout le peuple juif.
On fait l'allusion, comment dirais-je, une simulation entre les Berachot d'Hachem avec les quatre enfants.
Exactement.
Baruch,
Baruch, Baruch, Baruch, Baruch, Baruch, Baruch, exactement. Le Ravi continue, il dit la chose suivante. Madoua lo itzmida bala gada bebatachat. Chacham et rachatam vechenon yedolishol. J'explique la question. Il y a marqué dans la gada, il y a marqué achat chacham. Achat racha, achat tam. Pourquoi il est marqué comme ça? Vous avez qu'à marquer chacham virgule, racha virgule, tam virgule, chenon yedolishol. Pourquoi ce achat qui revient à chaque fois pour pouvoir marquer, séparer, identifier? Sachez une chose aussi, que dans la gada, dans la Gada, le Chacham n'est pas le contraire, le Racha n'est pas le contraire du Chacham. Comme le Tam n'est pas le contraire du Sheno et Eshol. Pas du tout. D'accord? C'est quatre entités complètement différentes. Bien souvent, les quatre entités peuvent exister chez quelqu'un de façon collective, chez un même individu. C'est quatre traits de caractère, d'accord, qui déterminent, qui vont couvrir l'ensemble du peuple juif. D'accord? On le verra dans la question qu'il pose et dans les réponses qui leur sont données. C'est ce que je vous expliquais. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces enfants-là? Quel est leur rôle? Quelle est leur importance? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte, ces questions qu'il y a? D'accord? Pour expliquer ça, Nakdim et Navi et Dibré à Gaon Baal Torah Traim. C'est un commentateur qui vivait avant le Chida, une certaine année avant le Chida, qui commente la Gemara. Vous l'avez? Ça commence par la DAF, ça commence, il y a marqué 2. J'ai marqué 2 dans un rond. D'accord? Vous y êtes?
Oui.
Laura Vidiache suivant. Pour expliquer les questions que je vous ai posées, d'accord? Nakdim et Navi et Dibré à Gaon Baal Torah Traim. Je vais faire une Nakdama. Une introduction en ramenant les propos qui ont été ramenés par le Baal Torah Traim, qui est un commentateur de la Gemara, sur la Massechet Roulin d'Af Tzadik Aleph. Il y a le suivant. Qui est Arba'a Agaluyot She'al Israël La'avor Kodem Bo Amashiach Henan Keneged Arba'at Shemot Elohim. Il y a la chose suivante. Très mouzard. Les quatre Galouyot que le Ham Israël doit traverser avant la venue du Mashiach sont en regard des quatre noms de Dieu qui s'appellent Elohim.
Ça veut dire.
Qui, Bemitzraim, Nigzar al Israël, l'Ishtarabed, Arba Meot ou Shloshim Shana, Keminyan, Chamesh Pa'amim, Shem Elohim. Et là, Shakadosh Boruchu, Otsiam Kodem Zmanam, Mikevan, Chera, Shi Ilula, Igalu, Itam Ubegalut, Leblit, Kuma, Khalila. Je t'explique. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, sinon on peut passer la journée dessus. Mais il dit la chose suivante. Le Baal Torah Traim explique. Il dit, les quatre enfants de la Gada sont en rapport des quatre galouyotes du peuple juif.
Quatre exils.
Il n'a pas encore dit, mais il va le dire. Mais ce qu'il nous dit à ce moment, il nous dit que les quatre exils sont en regard de quatre Shem Elohim. Vous savez que le nom de Dieu, il y a plusieurs noms de Dieu, d'accord? Il y a une dizaine de noms de Dieu utilisés dans tout le Tanakh. D'accord ? Le dernier qui est utilisé par le Nach, c'est le Hachem Tsevaot. D'accord ? Mais le Shem Avaya, le Shem Ekié, le Shem Elohim, le Shem Shaddai, le Shem El, le Shem Ya, les 10 noms de Dieu. Chaque nom de Dieu reflète un comportement de l'Éternel à notre égard. HaKadosh Baruch Hu nous révèle comment il se comporte par le nom que nous on utilise. Le Shem Elohim est un Shem de Din, de rigueur. C'est-à-dire que c'est un Shem de sanction aussi. D'accord ? Sanction dans le sens éducatif, pas la sanction comme... La prison, on envoie quelqu'un en prison, d'accord ? La Torah, pas la punition. La hanacha en hébreu, la sanction en hébreu, est éducative. D'abord éducative. On n'envoie pas quelqu'un en prison. Ici, elle est pas, ici, c'est sanctionné pour sanctionner. Vous envoyez quelqu'un en prison, quand il ressort, généralement, il est pire que ce qu'il était avant qu'il rentre. D'accord ? C'est pas ça la Torah. La Torah donne une sanction adaptée pour être metaken l'individu. Il a fait une faute, d'accord ? On le fait prendre conscience de sa faute et on le répare. Les quatre exils, s'il y a quatre exils, les cas d'exil sont le résultat d'une faute. On n'envoie pas quelqu'un en exil s'il n'a pas fauté. D'accord ? Donc, s'ils sont en résultat d'une faute, l'aspect que nous, on a, la perception qu'on a de Dieu, c'est une perception qu'on a de Dieu au travers de son nom Elohim. Donc, il dit le Torah Chaim, les quatre exils sont équivalents aux quatre Shem Elohim. Je comprends de là que l'exil d'Égypte est un cinquième Shem Elohim. Donc, il y a cinq Shem Elohim qui font chacun 86. Si vous faites la valeur numérique de Elohim, c'est 86. D'ailleurs, regarde, c'est la valeur numérique de Kos. Kos et Shoté, ça. C'est la valeur numérique aussi du ce que l'on met, hein, c'est la valeur numérique du vin. C'est aussi la valeur numérique du nombre de quantités de rivit qu'on doit mettre dans un. Combien on doit mettre de vin pour attaquer le sort de Pessah? 86 centilitres. D'accord, 8,6 centilitres, pardon. 86 millilitres.
8,6.
6 qui correspond à la valeur numérique de Elohim. Parce que le vin est un symbole de Din. Dans le fait qu'il est rouge. Donc 5 fois le Shem Elohim, ça fait 5 fois 86, ça fait 430.
Donc ça fait 5 exils.
Oui. Ça fait 5, 4, ça fait combien ? 430.
C'est quoi le 5e exil ? Le 5e exil, c'est quoi ?
Pardon ?
Le 5e exil.
Je reprends. Je vais mettre là. Le Rav démarre. Le Chidal, je suis conscient qu'il ne fait pas d'anacha. Il ne nous fait pas le cadeau. Je suppose que l'on connaît un certain nombre de choses quand il démarre. D'accord ? Il vient nous expliquer pourquoi la Torah nous parle, d'accord, de quatre fois le nom de Baruch, d'Akadosh Baruch Hu, des quatre enfants. Il commence en rappelant un autre Rav, qui s'appelle Torah Traim, qui dans la Gemara de Chulin, nous ramène un enseignement que le Ham Israël aurait dû être en exil pendant 430 ans en Égypte. 430 ans. À la sortie de l'Égypte, on n'aurait dû avoir qu'un seul exil. À la sortie de l'exil d'Égypte, on aurait dû recevoir la Torah, le Mashiach était là, l'histoire était finie, le Tikkun était fini, Shalom Aleichem. D'ailleurs, ils étaient redevenus immortels au don de la Torah comme Adam Harishon. C'est fini, l'histoire est terminée. Mais voilà qu'ils vont fauter. Ils rebelotent. Ils vont fauter avec le Hegel. D'accord ? Donc il dit le Rav, les 430 années qui étaient décidées et décrétées sur le peuple juif de rester en exil. D'où ils viennent ? Il dit, ils viennent de 5 fois le nom Elohim. Pourquoi ? Quelle est la faute qu'ils ont faite ? Je vais être obligé de 5 minutes pour vous expliquer. Toute la Haggadah de Pessah est une réparation de la faute d'Adam Harishon. Tout ce que l'on fait à Pessah répare ce qu'Adam Harishon a fait. D'accord ? Adam Harishon, lorsqu'il a été expulsé du Gan Eden, Écoutez, arrêtez de parler, d'écrire deux minutes et regardez-moi. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental, qui est repris dans le Zohar. Dans le Zohar, à Kadosh, Rabbi Eleazar pose à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui pose un certain nombre de questions. Il va lui demander pourquoi la Misra est arrivée en Égypte en exil. Pourquoi on mange la matzah que pendant 7 jours si c'est si bon? Pourquoi on ne mange pas pendant toute l'année? Vous savez qu'au Bet HaMikdash, il n'y avait pas de chametz. Pourquoi on ne mange pas la matzah toute l'année? Donc maintenant, on ne se complique pas la vie de faire tout ce qu'on doit faire comme préparatif. Il voulait poser la question aussi pour l'exil, la nature de l'exil. Et maintenant, écoutez, Rabbi Shimon Bar Yochai répond à la question suivante comme ça. Lorsqu'Adam Harishon a été expulsé du Gan Eden, à cause de la faute dont il a participé, il n'était pas que passif, il était aussi initiateur de la faute, d'accord? par le fait qu'il a provoqué chez sa femme de fauter, et en contrepartie, c'est lui qui va fauter aussi. Il va être sorti du Gan Eden, et il va se séparer de sa femme pendant 130 ans. Il ne va pas toucher Chava. Pendant 130 ans, il va avoir des pertes de substances séminales qui vont partir, ce qu'on appelle Zera Levatala. D'accord ? On appelle ça dans la chambre de nos sages, Zera Levatala. D'accord ? Pendant 130 ans. Il faut savoir une chose, parce que Zera Levatala, c'est le tikkun qu'on fait à Shovavim.
C'est le
tikkun qu'on fait à Shovavim. Shovavim, c'est la période qui est entre Shemot et Mishpatim. Les parachutes là, hein, on fait ce qu'on appelle Tanit Adibour. D'accord ? C'est quoi ce Tanit qu'on fait ? C'est ce qu'on appelle la Shimira du Brit. D'accord ? Il faut savoir une chose, un homme qui ne faute pas par jamais, tout à l'heure on parlait de Baba Salé, c'était son cas, qui n'a jamais connu ce qu'on appelle de Zera Levatala, de perte de substance séminale pendant la nuit par exemple, pendant un rêve, etc. Je suis désolé de parler de ça, mais sinon vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. D'accord ? C'est une preuve que c'est une Neshama Hadasha. Baba Salé n'a jamais connu ça dans sa vie. Yaakov Avinu dans la Torah, la première substance qui va sortir de lui va sortir à l'âge de 86 ans, lorsqu'il va connaître Léa, il va sortir Réhouven. Et il dit Réhouven, Bechori. Bechor Oni. Il est le premier de ma substance. D'accord ? Donc il avait un contrôle complet. D'où le problème de Yosef, qui va avoir un problème avec Poutifar, et qui va expulser de ses doigts pour se contrôler, d'accord, pour ne pas impurifier sa brite, 10 gouttes de substance séminale de ses doigts. Il va rediriger. Comment il a fait, je ne sais pas. Sans sortir 10 gouttes, il aurait dû avoir 12 tribus, il ne va sortir que 2 enfants. Les 10 vont partir les Ibouds. On va devoir le payer tous. On va tous payer ce qu'est cette histoire-là. D'accord ? Je reviens à Adam Harishon. Pendant 130 ans, il va perdre ses substances séminales. Ces âmes-là, il faut savoir que les âmes qui sortent d'une substance séminale qui ne sont pas dans un bête qui boule dans le corps d'une femme, d'accord, ont une kedusha particulière. D'accord, la kedusha d'un homme provient de sa tête, d'accord, ce qu'on appelle en hébreu le loven, de sa chorma, c'est ce qui conçoit l'enfant. Toute la partie blanche d'un enfant, d'un corps humain, vient du papa. Toute la partie rouge de mon corps vient de ma maman. Le sang d'un homme vient de sa maman. Prenez le groupe 101 que j'ai, c'est le groupe 120 de ma maman, pas du papa. Par contre, les os, tout ce qui est blanc chez moi, tout ce qui est blanc, vient du papa. Pourquoi ? Parce que ça vient de la chorma. La mère donne la bina. D'accord ? Donc, les paires de substances, c'est une paire de substances de chorma, de gdusha et liona meot. Il faut savoir une chose, c'est pas pour vous faire peur, mais les substances séminales créées, puisqu'elles n'ont pas donné lieu à un être humain sous sa forme que l'on connaît, donnent naissance à des formes qui nous attendent dans notre tombe. D'accord ? Elle nous attend dans la tombe. C'est pour ça qu'il y a un minhag à Jérusalem qui devait être un minhag pour tout le monde. On ne peut pas accompagner, Dieu préserve jusqu'à 120 ans, son père et sa mère jusqu'à leur tombe. Pourquoi ? Parce que les enfants qui accompagnent les parents, ces forces-là qui viennent, sont autour de la tombe et elles attendent le mort qui arrive. Qui lui voit, son Neshama le voit. Elles disent, voilà ce que tu aurais dû donner et voilà ce que nous on est. Sous-entendu, on est le résultat d'une erreur de ta part. Et il frappe le mort. Donc, pour éviter ça, on n'accompagne pas en Jérusalem, c'est un minag, donc que vous n'avez pas le connaître Dieu, on n'accompagne pas ses parents à l'entombe. C'est-à-dire qu'à l'entrée du cimetière, c'est d'autres personnes qui font ce qu'on appelle l'alévaya. Ça s'appelle les substances séminales, c'est important. Il faut savoir que ça court tout le long de la Kabbalah, tout le long du Zohar. Regardez que la fête de Pessah est concernée. Mais dans ces formes de substances séminales de Adam Harishon, d'accord, on s'appelle en hébreu Kal Shanim Dzera Levatala. Kal, Kouf, Lamed, 130 ans, il va perdre ses substances. Il va être dans le fleuve Gihon toute la journée pour se sanctifier, il va pleurer. Arrivé à 130 ans, Akadosh Baruch Hu va accepter sa tchouva, il va se réaccoupler avec Chava, il va donner naissance à Chet. Et chez Chet, d'accord, il va pouvoir réparer les lettres de l'alphabet que les dernières lettres. Si vous lève que Chet, c'est Shin Taf, c'est la fin de l'alphabet. Tous les autres lettres, il n'a pas pu les réparer. À cause de ces substances-là. Il va donner ce travail-là à faire, ou à vote, et tout le Ham Israël pour le faire. D'accord ? Je ne peux pas rentrer plus. Si Dieu veut d'autres cours, je vous expliquerai un peu plus. Ces 130 ans-là, ces 130 années, vont donner des formes, d'accord, de Zera Vata, qui vont revenir. Ces formes-là, elles sont des formes comme des espèces de monstres qui ne sont pas terminées. D'accord ? Donc que fait Akadosh Baruch Hu ? Il va les remettre Il va les faire revenir. Elles vont revenir à la génération du déluge. D'accord ? Ça va donner la génération du déluge. Au déluge, les hommes aussi vont faire cette faute-là. Et Akash Bokhu va donc effacer la génération du déluge, qu'on appelle Maboul. D'accord ? C'est un passouk dans la pomme d'un passouk de Tehilim, le Ariya Kadosh nous explique. D'accord ? Pour faire ce qu'on appelle un premier birour, un premier tikkun, un premier tri, un premier filtre de travail sur ces formes-là qui ont été créées. Ça ne suffit pas. Après le déluge, elles vont revenir, se réincarner dans la génération d'Or à Plaga, la génération de la tour de Babel. Ça ne suffit pas. On élève encore la barre. Elles vont revenir se réincarner dans Sdom et Amora, à Sodome et à Gomorre, où il y avait aussi cette faute-là. Et derrière, la Torah nous parle de Er et de Onan, les deux fils aînés de Yehuda, qui ont fait cette faute. Et Er, c'est l'outil Ra, c'est le mal. C'est la Torah, ben la Torah, c'est considéré comme un des mâles absolus. Je ne fais pas un cours de morale. Hein. Je dis ce qui est écrit dans le Zohar, ce qui est écrit du commentaire du Ari Akadosh. Et je vous dis maintenant, pourquoi c'est lié à ce qu'il est en train de dire maintenant, et pourquoi c'est lié à la Agada de Pessah. Quand, au fur et à mesure de l'histoire, ces 130 ans, ces 130 années de perte de science liminale, qui ont été perdues par Adam Arishon, vous imaginez Adam Arishon. Vous imaginez ce qui peut sortir d'Adam Arishon qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Le niveau de la Neshama qui peut sortir. Le niveau que ce que c'était, d'accord ? Ces 130 années qui vont créer donc ces formes-là de Shedim vont revenir se retrouver en Égypte. Elles vont se concentrer en Égypte. Maintenant, pour aller leur donner une base de Tikkun, il faut leur amener des corps humains dans lesquels elles vont pouvoir rentrer. D'accord ?
C'est la Yerida.
Attendez. Pour leur donner une base, vient Yaakov Avinu. Entre-temps, Akash Bokhu va vous envoyer les Neshamot d'Abraham, Yitzhak, Yaakov et les 12 tribus, comme je l'ai expliqué la fois dernière, qui constituent la base, la structure qui va donner 70 Bzam, qui vont être ce qu'on appelle Kour HaBarzel. Barzel en hébreu, Barzel. Kour HaBarzel, c'est le four dans lequel on fait chauffer le fer pour le couler, d'accord, pour travailler le fer. Quand on dit que l'Égypte, c'est le Kour HaBarzel. Barzel, c'est les otiyot de Bilha, Rachel, Zilpa, Véléa. Le peuple juif sort de ces quatre. Donc la base de création, on amène maintenant la base de création du peuple juif, ce corps-là, 70, on les prend, on les met en Égypte. Maintenant, de eux vont sortir, le peuple juif va se développer et va se multiplier. En sortant des enfants, vont rentrer dans ces enfants, les âmes de ces 130 années vont venir se réincarner. Et elles vont souffrir terriblement. Comment elles vont souffrir ? Pharaon va les jeter dans le Nil, va les utiliser comme pierre, va les égorger pour utiliser le sang. 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Leur pharaon avait de la lèpre, il lui avait dit qu'il devait se soigner avec le sang des bébés. Donc il prenait, vous imaginez, on ne peut pas imaginer, je ne peux pas l'imaginer d'ailleurs, c'est inimaginable, que Dieu nous en préserve. Les Égyptiens rentraient dans les familles juives, ils prenaient les bébés, 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, égorgés comme des boulets, on récupérait le sang et les gens se trempaient pharaon. Les bébés étaient utilisés aussi dans les pierres. Viens, mon cher Abénou. Il dit à Kadosh Baruch Hu, lama, pourquoi ? Pourquoi cette souffrance ? Makara, Kadosh Baruch Hu dit, tu ne peux pas comprendre. Je t'explique, mais je vais t'expliquer, mais tu ne peux pas comprendre. Actuellement, ils sont en train de faire un tikkun. Ils sont en train de se réparer. Mon cher Abénou ne fait pas partie de ces 130. Mon cher Abénou fait partie, il sort des 70, il fait partie de ce qu'on appelle du fil rouge. Des avots que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour nous guider. Ce qu'on appelle des guides, comme des ushpizines qu'on cite à la Soukhot. D'accord ? Mon cher Rabbeinu. Donc mon cher Rabbeinu, il va guider le peuple juif pour sortir. Mais voilà qu'on arrive à la 49 portes d'impureté, à l'Égypte, encore un peu, et on ne peut plus sortir d'Égypte. Personne qui sort. D'accord ? Donc qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu ? Il va dire à mon cher Rabbeinu, il doit venir là, pendant 430 ans, d'accord ? On a besoin qu'il soit en Égypte, pour se réincarner, pour sortir, pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est la dose qu'il y a, ça correspond à 5 fois le nom d'Elohim, qui est un schème de qui est d'ailleurs 5, c'est lié au doigt d'ailleurs, 5 c'est lié au doigt de la main, d'accord ? Ce qu'on appelle, je ne peux pas aller plus loin, mais comprenez. Le schème Elohim est un schème qui vient pour réparer. Donc on doit être en Égypte pour réparer. Viens mon cher Abénou, il dit, mais le âme Israël ne va pas pouvoir. Et puis la plainte du peuple juif est montée au trône céleste. Kadosh Baruch Hu a vu que le peuple juif allait se perdre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Moshe Rabbeinu, je vais permuter au lieu de les laisser 430 ans, je vais faire une remise.
210.
Et ramener à 210. Gematria Redou. Redou, ce qui a été dit à Yaakov Avinu. Descendez en Égypte. Redou, c'est Resh Dalet Vav. Gematria 210. C'est 20, c'est 10 fois le nom Ekié. Ekié, Asher Ekié. Le Shem Ekié, ah, c'est 10 fois son nom.
Bon.
Donc, il leur a dit, vous restez 210 ans en Égypte. Les 190 ans, ou les 190 ans plus encore 30, ça fait combien? Ça fait 220. Où sont passés les 220? Où est la remise? Que je voudrais dire à mon cher Abbéno, je vais faire une chose. Je vais augmenter la quantité de la souffrance, pour compenser la durée de l'exil. D'accord? À la condition, et vous allez le lire dans le texte, à la condition, une seule condition, le peuple juif accepte de recevoir la Torah dans le désert. À cette condition, je fais une remise et je change 4 fois le Shem Elohim. Donc, le premier Elohim qui était en Égypte 86 ans. Si vous regardez nos sages, ils disent que l'exil a été dur pendant 86 ans. Avant, l'exil n'était pas dur. Ce qu'on appelle maintenant sweet galout. Parce que si vous parlez de la galout maintenant, allez aux États-Unis, j'ai fait américain, etc. Je dis, oui, c'est ça la galout. Enfin, franchement, c'est ça la galout. Mais c'est galout. Ce qu'on appelle sweet galout. Une fois, j'ai vu un article d'un rave, c'est sweet galout sweet. D'accord? Quelle est douce notre galout, qu'on est bien, etc. Pourquoi venir en Eretz Israël? Alors, franchement, pourquoi venir en Eretz Israël? La guerre, les trucs, les problèmes. Mais maintenant la Torah, ça pose un problème. On peut la faire route l'arrêt, tranquille. On consomme la question familiale, etc. Je vous crois, a dit à mon cher Abbé, non. Attention. Si jamais, il ne respecte pas la Torah, les 4 Shem Elohim que j'ai mis en potentiel, je les ai changés en 4 fois le Shem Havaya. Je vous ai donné 4 Shem Havaya. Le Gematria d'Havaya, c'est 26. Au lieu de 86, je vous ai donné 26. Je vous fais une remise de 60. 60. Pour chacun. Ça fait 4 Shem Elohim. Mais si vous fautez, et pas la Torah, chaque Shem Elohim revient en force, ça devient un exil. D'où l'origine des 4 exils. C'est clair? Donc les 4 exils que le peuple juif va subir sont à la source, à la base. L'origine vient du Chet HaEgel, dans lequel ils auraient dû régler le problème. Mais voilà, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, en accélérant la force de l'exil, d'accord, en augmentant l'intensité de la souffrance, Akash Brou a réduit. Seulement, il a pas terminé le travail.
Il n'a pas terminé
le travail. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas sortir. Dai, c'est arrivé. Le temps pour sortir d'Égypte. Le temps est arrivé parce qu'il y avait ce qu'on appelle le Kiyum Ha'olam dépendait du Sissivan. Et le Ham Israël devait sortir pour recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu qui a compris maintenant le mécanisme. Il a compris parce que Keshbrou lui a expliqué, lui a expliqué. Dans le Sne, il a expliqué. C'est dans le Sne où il a marqué Eki Asher Eki, il lui a dit, il lui a montré tout ça. Il a dit, voilà les Neshamot qu'il y a maintenant tu comprends, d'accord? Moshe Rabbeinu, il a dit, pas de problème. Mais Moshe Rabbeinu va identifier que dans le peuple juif, il y avait une grosse partie qui n'avait pas terminé le tikkun. Cette partie qui n'a pas terminé le tikkun devait mourir. Cette partie s'appelle le Erev Rav. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, cette partie-là, moi je m'en occupe. Alaï. Laisse-moi la responsabilité de cette partie-là. Dans le désert, pendant les 3 mois, je leur fais faire le travail du tikkun, pour les ramener au même niveau que la source du peuple juif pour pouvoir régler le problème.
C'est les étrangers qui ont suivi
ce que vous appelez, ce qu'on appelle la tourbe, voilà. Dans le pshat, la tourbe, le rêve rave. Il faut savoir une chose que je suis conscient, j'ai une chose qui va vous faire bondir, mais la majorité du peuple juif de notre temps, c'est le rêve rave.
Voilà. Dites-moi à ce propos. On a
explique pourquoi on est dominé par des gouvernements, je ne fais pas de politique, hein, je m'en fous réellement, des gouvernements qu'on appelle dans la Torah, on appelle ça des gouvernements qui sont ou contre la Torah, ou qui ont des positions par rapport à la Torah, ou qui ont des positions par rapport à Israël, ou qui rendent des territoires. C'est ce qu'on appelle Memshelat Zadon. Cette catégorie-là vient du Erev Rav. C'est eux qui posent des problèmes. Toujours ils ont posé des problèmes. Depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Prenez l'histoire du peuple juif, ce sont des juifs qui ont posé problème, pas les autres.
Alors les vrais juifs, ils sont où?
Laissez-moi m'occuper de mes ennemis. Hein?
20%.
Si on y arrive, vous serez les vrais juifs.
C'est ceux qui s'attrapent, c'est comme, je vais vous donner une idée. Mon Rav, Zechon Brachal Rav Rumi, me disait, on vit dans un monde qui est comme un bateau qui est dans une tempête. D'accord? Le problème, c'est que le bateau, c'est Israël. D'accord. La tempête, on a des vagues de 20 mètres tout autour, d'accord. Il me disait toujours, accroche-toi au mât du bateau. Parce qu'il y a des vagues qui vont venir, qui enlèvent. Les vagues qui viennent, c'est ce que l'on voit dans la société dans laquelle on est. Le mât du bateau, c'est la Torah. Accroche-toi à la Torah. Et tu ne seras pas perdu. Tu ne seras pas emporté par la vague. Malheureusement, on voit combien de gens qui sont emportés par les vagues. Pas les vagues, ils s'emportent. D'accord. Ils font des commentaires, vous allez voir. Vous allez voir à quoi se comparer les... Si on a le temps, je vais essayer d'accélérer, mais vous allez voir, maintenant les quatre enfants, vous allez voir la Gada, vous allez dire, mais c'est génial. Celui qui a écrit la Gada, c'est génial. Bien sûr, c'est génial. Il a écrit Bouah HaKodesh. Il n'a pas écrit comme ça. Vous allez voir à quoi correspond le Chacham, à quel exil. À quoi correspond le Raja, à quel exil. À quoi correspond le Tam. Et vous allez voir que notre exil à nous, des hommes, correspond à Miché Eno Yodé Alishol. Et vous verrez la majorité du peuple juif de maintenant, ils ne connaissent pas la Torah. D'accord. Vous avez vu quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions, d'accord, qui est comme ça, comme une espèce de statue qui est là, qui est en train de regarder, qui est ça la génération passif. Laquelle on est. Passif. C'est ce que dit le Torah Traim. Regardez la puissance du Torah Traim dans une ou deux phrases que le Chida reprend. Maintenant, vous avez compris qu'il nous fait que je remets dans là où ce qu'il dit. Il dit on aurait dû rester encore quatre fois le Jem Elokim. Donc, on a eu quelque part une anacha. Alors maintenant, on y va. Je continue le texte. C'est clair.
Pardon. Donc, c'est des juifs en manque de tchouba.
Le Ari Kadosh, il écrit dans l'Agdama, le Maral Chol, il écrit dans l'Agdama.
Est-ce qu'on pense que.
Écoutez,
c'est bidon alors. Quoi? Les sympathisants qui ont vu les miracles, ils ont dit allez, on va suivre. C'est pas ça donc, le Révra.
Comment voulez-vous. Ce que je vous ai donné comme explication, comment voulez-vous le donner à un enfant? Il y a une règle dans la Torah. Quand vous donnez une explication, c'est la force de la Haggadah. La Torah, si vous avez remarqué que la Torah n'est pas donnée comme un enseignement, comme par exemple on veut nous donner maintenant par exemple dans les systèmes éducatifs, ce qu'on appelle Homer Aliba. Si vous regardez la Torah, dans n'importe quelle école du monde entier, quand vous voulez apprendre les mathématiques, la physique, ou la science, la biologie, vous avez des stades. Par exemple, en Kita Aleph, vous allez apprendre 1 plus 1 égale 2. En Kita Bet, vous allez commencer à apprendre les multiplications, les divisions, etc. Après, vous allez monter les fonctions mathématiques. Après, vous allez arriver à des fonctions d'infini, etc. Mais après, vous allez rentrer à des modélisations de plus en plus compliquées. Vous allez monter. Dans la Torah, il n'y a pas ça. Le même texte, il est étudié par un enfant de 5 ans et par un homme de 80 ans. Le même texte. Et la richesse de la Torah, c'est que, un, il comprend ce qu'il doit comprendre et l'autre, il comprend ce qu'il doit comprendre. Et les deux ne sont pas en opposition. Et toute la Torah a une richesse qui fait qu'il n'y a pas de guerre de génération. Vous ne verrez jamais de guerre de génération dans la Torah. Et ça vient de la Haggadah, qui est négée d'Arba Banim. Elle nous traite à nous la Torah d'Arba Banim. On est constamment des Bnei Torah. On est constamment des Banim. On n'est jamais des adultes vis-à-vis d'Akash Bokhou. Toujours. Banim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes dans un enfant de l'éternel. J'explique. Un jour, il y avait un jour un curé qui est venu voir Rabbi Yonatan Embichutz. Rabbi Nathan Shmuel vivait au XVIIIe siècle. D'accord, c'était un grand rave qui vivait à Metz, qui était grave de plusieurs Kehila. Il est venu voir, c'était un ami à lui, il avait des connaissances. Cet évêque-là est venu voir et il a dit, vous savez, vous, dans vos synagogues, c'est la panique. C'est vrai, quand vous prenez une fête, vous prenez Pessah, vous avez les enfants, vous avez la famille, ça discute, d'accord. Il dit, nous, les églises, vous rentrez, l'avdil, vous rentrez, le calme. Quand le curé, il parle, je quitte. D'accord, il n'y a pas un qui parle. Rabbi Nathan Shmuel, il a dit, c'est normal. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Bani Matem Hashem Elokechem. Nous, on est les enfants de Dieu. Les enfants à la maison, du papa et de la maman. Quand vous invitez des gens, les invités, ils se tiennent correct. Mais les enfants à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est les enfants dans la maison de Dieu, on fait ce qu'on veut. Mais vous, vous êtes des invités. À vous, vous êtes, asseyez-vous là et taisez-vous, je crois qu'on vous serve. C'était la réponse de Rabbi Nathan Shmuel. C'est la... Top, on reprend le texte. Il dit comme ça. D'accord. Maintenant, il dit le Rav à la dernière phrase du premier paragraphe, la dernière phrase qui commence par El. Et là, Kadosh Baruch Hu otsiam kodem zmanam. Kadosh Baruch Hu les a sortis avant le temps qui leur était imparti. Mikevan du fait qu'il a vu quoi? Chez Ilula Igalenu, s'il ne les avait pas libérés. Itam ou begalut blit kuma khalila, il se sera impurifié dans l'exil sans possibilité de réparation définitive. Donc, quelque chose, il a accéléré le temps pour les sortir. Et il continue. Mais qu'est-ce que ça dit tout le monde? Comment c'est possible qu'ils soient sortis avant? Akash Bokhu, il a décrété 430 ans. C'est ce qu'il a dit à Brit Benhametarim avant Mavinou. Mavinou, il a compris que là-bas, c'était le problème de la réincarnation, qu'il allait construire une base, qu'il allait donner naissance à des Neshamot, qu'il allait donner des corps pour faire revenir ces Neshamot, pour pouvoir leur donner une possibilité de tikkun. Il a compris ça. Donc 430 ans, il a choisi l'exil. D'accord ? Il dit le Rav, il dit, comment c'est possible qu'il a accéléré le temps ? Bekoar Kabbalat Torah, parce qu'ils ont accepté la Torah. Maintenant, on comprend. Je vais accélérer parce qu'il va peut-être le dire là. Pourquoi il y a marqué Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël? Pourquoi c'est écrit avant l'Arba Banim? Maintenant, je comprends pourquoi la Gadal nous dit ça. Baruch Hamakom Baruchu. Bien sûr que je dois remercier l'Éternel, parce que c'est grâce au fait qu'il a donné la Torah qui m'a limité le temps en Égypte, que je suis sorti d'Égypte. Mouvan, il continue. Bekoar Kabbalat Torah. D'ailleurs, nous, c'est-à-dire quoi? Mikevan shikiblu al atzmam latzet mimitzrayim al da'at lekabel et haTorah, du fait qu'ils sont sortis d'Égypte, en ayant pris sur eux de recevoir la Torah, al Arsinaï, velishmor mitzvotah, et de respecter ces mitzvot. Pardon. O ilahem adavar leamtik et agvorot. Je traduis dans des termes qui soient compréhensibles. Ça, ils sont aptes à pouvoir recevoir une remise de l'exil. Psadagamor, d'accord. Quelqu'un qui a une remise de peine, quelqu'un qui a fait une boulette et qui, devant le juge, il reconnaît, il a déjà, ça a déjà, ça réduit sa peine, d'accord ? Bachasadim, ve'arba chelka Torah. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Torah ? La Kabbalat Torah, il y a 4 compartiments dans la Torah. Hein, monsieur Narmias, combien de compartiments dans la Torah ? Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Regardez ce que dit le Rav. Aloulahem keneged arba shemot Elohim. Chacun est en regard d'un Shem Elohim. Puisque tu as accepté de recevoir la Torah, je te fais une remise correspondant à chaque fois un des exils. Alors, combien il y a de compartiments dans la Torah ? Il y a 4. Il y a le pshat, le sens littéral, le sens allusif, c'est le remez, le sens allégorique, c'est le drash, et le sens ésotérique, c'est le sod. En fonction des 4, il y a 4 shem Elohim. Mais regardez ce qu'il dit. Veloayu Israël, veloayu Israël, mishamrim et ta Torah keraoui veloayu chotim bechet haegel. Si les bnei Israël, ils avaient pas fauté par le hegel, d'accord, ils avaient respecté la Torah. Aya d'avoir olé la hem l'hypater kalil merbagluot. Ils auraient été dispensés des 4 exils qui viennent après. On n'aurait pas connu 4 exils. Notamment celui dans lequel on est.
D'accord ?
Conséquences. Vraies conséquences. Qui m'a kocho shel ma'amad ar sinai bi kibalta Torah. Aya m'amtikim et agvorot b'chassadim bina mouchletet. Ve'ayon offrim otam l'rachamim shotim. Autrement dit, la puissance du don de la Torah, d'accord, aurait éliminé toute forme de galout. On aurait eu le Mashiach. Seulement, on n'est pas là. Béram, cependant, mais Kevan Shechatou Israël Baegel, ça nous concerne maintenant, d'accord ? C'est pour ça qu'on fait c'est pour ça aussi que quand viendra le Mashiach, on n'a plus besoin de faire la Haggadah de Pessah. Ce qui n'est pas le cas de Purim. On comprend maintenant pourquoi ? Parce que c'est une question de galout. D'accord ? Il dit, mais Kevan Shechatou Israël Baegel, Nigzar Aleem, Shishtabdou, Be'arba, il manque un resh, Be'arba Malchuyot, du fait qu'ils ont fauté. Alors ils vont recevoir maintenant 4 exils. Vous savez qu'un exil, c'est une réparation. Vous savez que quand quelqu'un déménage d'endroit, d'accord, ça lui répare énormément de fautes. D'accord ? Regardez derrière la souffrance de quelqu'un quand on le change de place dans une synagogue, il est habitué à un endroit, on lui dit que tu vas te mettre dans un endroit. C'est pénible. Il faut savoir que c'est un tikkun, ça répare. Ça fera là. Prenez un bébé, même un bébé, ou même malheureusement aussi les personnes âgées qui s'habituent à un endroit, d'accord, c'est très difficile à supporter. Le changement de place. Le galout, changement de place, entraîne un tikkun. Il faut savoir une chose, quelqu'un qui déménage, et le fait d'avoir fait l'aliyah pour nous tous en Israël, c'est une capara de Havonot comme jamais. Comme jamais. Je vous le dis, c'est un mérite énorme qu'on a eu de faire ça dans notre temps. Je vous garantis que pendant des générations, des Juifs ont voulu faire ce que nous, on a fait.
Et
ils n'ont pas pu faire. C'est un tikkun de Havonot dont on n'a pas idée. Alors il dit, c'est quoi les 4 exils ? Bavel, Madaï, Yavan et Edom, l'exil de Babel, de Babylonie, Madaï des Perses et des Mèdes, Yavan des Grecs, et Edom, c'est les Romains, c'est celui dans lequel on est. D'accord ? Et regardez ce qu'il dit. Shekel, ben Mitzrayim, lo, avou, och, avou, Israël, koshishivou, de la shel, shmonim, misheshana, bilvad, en Égypte, la dureté de l'exil a duré que 86 ans, même s'ils sont restés 210 ans. 86 ans, valeur numérique. Un Shem Elohim. Un Shem Elohim. Veod notru aleem shlosh meot verbaim verba shnot shivut ke minyan minat shmed. Shmed, c'est destruction. Donc il leur restait en fait 430 ans, enfin, quatre fois le Shem Elohim correspondant à la valeur numérique de Shemed. Si vous regardez d'ailleurs une chose intéressante, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais si vous faites la valeur numérique de Pshat, Remez, Drash, Vesod, ça fait Shemed aussi. 344. La même valeur numérique qu'il est en train de dire là.
344.
344. Regardez ce qu'il dit, c'est important. Maintenant, si HaKadosh Baruch Hu nous a fait une anacha en nombre d'années, d'accord, il a réduit les années à 210 ans, d'accord, comment ça se fait que nous, on est depuis 2000 ans en exil? Comment c'est possible? Regardez ce qu'il dit. Il dit, Agam she'anu reyuim legalut ze me'ot shanim, même si on est nous condamnés à vivre un exil en centaines d'années, et qu'on a dépassé maintenant ces années-là, ça fait des millénaires que tu es en exil, d'accord, il nous a pas libérés encore. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ce qui compte, c'est pas le nombre d'années qui compte. Et là, atzahar vayagon, c'est la souffrance et la peine. C'est ce qui compense. Donc, HaKadosh Baruch Hu, c'est une rachamim qui nous fait. Au lieu, maintenant, de notre temps, au lieu de nous donner une derba, qu'est-ce qu'il fait? Il étale. Il y avait un jour un roi qui avait décrété que celui qui jette sa couronne à terre, d'accord, il lui prend la table, c'est la table de l'État, une table royale qui faisait peut-être 10 mètres de long, en bois massif, on lui jette dessus pour le tuer. Voilà que son fils, le fils du roi, est venu, a pris la couronne du roi. Un jour, il l'a jetée par terre devant tous les ministres. Maintenant, le roi, il a décrété, c'est écrit. Que fait le roi? Il va tuer son fils. Il était malade. Il a demandé à tous les conseillers, chacun donné, etc. Puis il a demandé aux juifs, au Rav, au Chacham. Le Chacham lui a dit, pas de problème, tu prends la table, tu la découpes en allumettes, et tous les jours tu prends une poignée, tu mets sur la tête. Au bout d'un an, tu auras mis la table sur la tête de ton fils. Et il n'est pas mort. C'est exactement ce qu'il fait HaKadosh Baruch Hu avec nous. Au lieu de nous donner la quantité d'exil, sous forme d'années denses en souffrance, il étale sur le temps. Il est ce qu'on appelle Erech HaPaim V'Rav Chesed, ce qu'on dit. Erech HaPaim, c'est une mila HaKadosh Baruch Hu, il est longanime en français, c'est-à-dire il étend l'exil, d'accord, pour se mettre à notre portée, pour que ce soit vivable.
Il fait l'inverse de ce qu'il a fait.
Exactement, pour nous permettre de vivre en nous. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Sweet Galout, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des Américains qui vivent, il y en a qui disent, moi, c'est la Galout, c'est Galout. Moi, je suis en Galout.
Sur le papier.
Vous voyez là-bas, tout. Qu'est-ce que...
Mais si on avait laissé les Égyptiens, la Galout égyptienne, hein, au lieu d'avoir ces 210 ans d'années de souffrance, à la limite, ils auraient peut-être préféré avoir 2000 ans sans souffrir.
Là-bas en Égypte, la quantité de touma était telle que risquait de perdre le peuple juif totalement.
Il disparaissait
spirituellement. D'accord. Là, ce qu'on appelle, il y a eu une alerte. Il a fallu tirer l'alerte et les sortir très vite. D'accord. C'est ce qui est dit dans la Haggadah de Bechipazon. On est sorti de Bechipazon et qu'on a fait la matzah, c'est un bain qu'on a fait rapide. Cette rapidité, elle vient être le symbole de la réduction de l'exil.
Je peux vous dire quelque chose?
Oui, oui.
On dit qu'il y avait les 49 portes d'impureté.
Exactement.
La cinquième porte.
Cinquantième.
C'était celle de la pureté. Et qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir le Ham Israël avant la cinquantième, sinon il aura atteint la pureté et ne serait jamais sorti de Galut.
Vous avez raison, tout à fait. C'est l'impureté, pas l'impureté, l'impureté.
Voilà, s'il avait attendu que
c'est
la
pour
cinquantième
ça,
porte soit atteinte,
c'est la raison pour laquelle...
À ce moment-là, il ne serait jamais sorti, exactement. Parce qu'il aura atteint. Il aurait pu acquérir la alors, pureté.
Il aurait été irrécupérable.
Il était irrécupérable.
Elle dit pas l'impureté.
L'impureté.
Non, alors, elle dit la pureté. Elle dit l'inverse.
Non, l'impureté.
De l'impureté.
Oui, oui. Si elle avait dépassé la cinquantième porte,
on n'en serait pas sorti.
Voilà.
Alors maintenant, regardez ce que vous dites. Regardez comment c'est grand ce que vous dites. C'est pour ça que dans le Homer, il y a 49 jours. Non. Ce que l'on avait maintenant, qu'on a sorti maintenant d'un coup, on nous a propulsé des 49 portes d'impureté pour sortir d'Égypte, HaKadosh Baruch Hu nous le donnait maintenant pour travailler. D'accord? C'est pour ça qu'on a 49 jours du Homer. Chaque jour du Homer est une porte de pureté pour arriver à la 50e porte de pureté qui est Shavuot. D'ailleurs, c'est à Shavuot, chez les Goïms, ça s'appelle Pentecôte. Pentecôte vient de 50, d'accord? Mais eux, ils le calculent par rapport, les chrétiens notamment, ils le calculent par rapport au lundi de Pâques. Ce qui est marqué dans la Torah, mais Machorat à Shabbat. Shabbat dans la Gemara de Sakhim, c'est Shabbat. Shabbat,
c'est
Bereshit.
Shabbat, c'est dimanche.
Voilà, c'est dimanche. Donc, vous avez compris.
Donc, une autre notre raison pour laquelle il nous a fait sortir à ce moment-là.
Ouais. Exactement, exactement, exactement.
À la porte limite.
Exactement. Il dit donc, Mishum shelo minyan hashanim u'machria, ela atzar ve'yagon. Je suis à la dernière ligne du dernier paragraphe. U'prol shnot agalut adaim lo ishlomo et michsat atzar areuya l'shlosh meot ve'arba'im ve'arba shana. Donc en fait, ce qui se passe, il veut dire le Rav, la quantité de souffrance qu'on a, Simulev, la quantité de souffrance que l'âme Israël a traversée depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ne représente pas l'intensité des 344 qu'il aurait dû subir, vu qu'on est encore en exil. Même si on est en Israël, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je traduis, que le limud Torah que j'ai, que l'on a nous collectivement, il n'est pas du niveau encore très loin de du niveau qui était requis pour pouvoir éliminer l'exil. D'accord? Contrairement à ce que...
Ça veut dire que c'est le limud qui limite l'exil?
Non. Oui, c'est-à-dire que c'est la pauvreté, la aniout que l'on a en Torah qui limite notre exil. La chérout, la liberté provient de la liberté de l'esprit. C'est pas la liberté, c'est pas être libre de. Vous n'êtes pas libre pour faire ce qu'on appelle
n'importe quoi.
Ishtolelout, d'accord, ça devient la jungle. C'est pas la liberté. Et là, dit Rav Torah Traim. Maintenant, le Rav, on va avoir pas le temps de le faire, mais au moins, on va faire le premier paragraphe. Et après, on arrête. Pas pour les questions. Après, je vous dis rapidement. On ira à la fin juste pour voir de quoi parle notre galoute à nous. Ou basé yuvenu divré baal agada shel ananachon. Maintenant, je comprends les paroles de la agada. Pourquoi? Sheken ba baal agada. Il vient le rédacteur de la agada. L'iten shevach nous donner une glorification de l'Éternel et un remerciement. Ve'odal akadosh bechou al shemitek la Israël et arba azmane ashivud. Parce qu'il est venu limiter ces 430 ans. De notre Olaim au Tzion Kodem Zmanam, et qui les a fait sortir avant leur temps. C'est ça que je remercie l'Éternel. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shatan Torah, Lamo Israël, Baruch Hu. C'est ça les quatre. Ve'alken nekat alashon zo, Baruch Hamakom, etc. etc. Keneged abachelka Torah. Ve'remez nae yesh bekar, il y a un joli remez dedans, ce que je dis tout à l'heure. Le mot de Pardes, pardon tout à l'heure, c'est le mot de Pardes. Pardes qui correspond à Pshat, Remez, Drash, Vesod, Rachetevot, Romezet, L'Arba, Chéka, Torah, Ole, Begimatria, Shin, Mem, Dalet, 344. Donc le mot Pardes représente les 344 années. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait une Shlimout de l'exil, ça veut dire qu'on n'a pas fait une Shlimout du Pardes. Il suffit que j'atteigne la Shlimout du Pardes collectivement du peuple juif et je suis dispensé de l'exil. L'affaire est réglée. C'est l'équation qui est donnée. D'accord. Alors, ensuite, le Rav, il dit, Veberam, lo nakata magid, memfurash et kabbalat Torah, ki pa'am achad bilvad. C'est pour ça que le magid, dans le récit de la sortie du magid, d'accord, qui est dit entre avant le deuxième cause de Yain, qu'on va faire à la fin, pratiquement du Yain, avant d'arriver à Motsi Matza, d'accord, on a tout Yachat Motsi Matza, on a tout le magid, d'accord. Le magid, c'est entre le premier vers et le deuxième vers. Première cause. Là-bas, il n'y a pratiquement pas de mention du temps de la Torah. Sauf une fois, là. Baruch HaMakom, Baruch Shatan Torah en Israël. Une fois. Pourquoi il dit le Rav? Il dit, Baruch Shatan Torah en Israël. Bezot, Mishum, Shirov, Israël, Lo Zachou, Le Asig, Et Chelke, Echad, Batorah. Parce que tout l'âme Israël, il y en a qui n'ont pas réussi à atteindre les quatre compartiments de la Torah. Alors, comme on n'a pas atteint les quatre compartiments de la Torah, Magi Alanou que Magid. Magid, on fait qu'une mention, une fois, du Kabbalat HaTorah que l'on fait au début. D'accord? Berak tamim vechelek apashti rak tamim zachou leasig et darush haremez veasod. C'est-à-dire, le pshat, beaucoup on peut le capter dans la Torah, mais le remez, le drash, il y a plus forte raison, le sod, sont très peu qui rentrent dedans du Ham Israël. Ensuite, le Rav va comparer et il va dire la chose suivante, je termine avec ça, après on va poser la question. Le Rav, il dit maintenant, viens le Chacham. C'est quoi le Chacham? Il dit le Chacham, c'est Bavel. Le Chacham, il est en rapport de l'exil de Babylone. Non, on comprend maintenant pourquoi le Gemara a été écrit
à Babel.
Tamud Babli. Pourquoi? Parce que ça correspond au Chacham. Il y avait encore un certain niveau du Ham Israël. Donc, Ben Chacham, et les questions que pose le Chacham sont effectivement du niveau de Chochma correspondant à ce niveau-là. Même si l'exil de Babylone est un exil, il est encore proche du don de la Torah, on est à un certain niveau. Vient Med, Madai. Il compare au rachat. D'accord? Il faut savoir que ça correspond au Perse, ça correspond à l'histoire de Megillah. L'âme Israël s'était marié avec des goyotes. Ils étaient même venus voir Ezra pour pouvoir dire: eh oh, on peut se marier avec elle. C'était des terims. Se donner des hétérim, c'est ce que donne le rachat dans la Gada. Qu'est-ce qu'il dit le rachat dans la Gada? Ma avoda azot alachem. C'est quoi ce travail? Sous-entendu, qu'est-ce que vous avez besoin de tout ça? Vous avez besoin de tout ça? À quoi le moutard? Hein? À quoi le moutard? Qu'est-ce que vous avez un chiloni? Tout est permis. Ma pitom, on peut manger du pain, etc. Voilà. Je mets matzah, je mets la matzah, à côté il y a la bière, etc. Cette espèce de yerbouv, c'était madaï. Ça se correspond au rachat. Après, on arrive au Tam. Tam, c'est l'exil de Yavan. Et effectivement, Tam, la Tam, ça correspond à l'innocence, ça correspond à la Tmimout, le fait d'être entier. Et ce qu'on appelle Messirut Nechef. Et quand il y a eu l'histoire de Hanouka pendant le temps des Grecs, les Juifs se sont donnés à la Torah, Bitmimut. Ils ont dit, on va combattre, arrive ce qu'il arrive. D'accord? Quand Jboukou l'a demandé d'allumer les Nérotes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller Bitmimut, c'est le Tam. Le Tam correspond à l'exil de l'Égypte, à l'exil de la Grèce. Viens le chez
nous. Pourtant, le Tam, Babel, la Grèce, c'est toute la philosophie, c'est toute, c'est la compréhension, c'est comprendre.
Oui,
ce... c'est
mais attendez. La Torah nous parle d'Arba Banim, c'est nous le peuple juif. C'est les quatre Banim qui sont dans les quatre exils. Comment était le peuple juif dans l'exil d'Égypte?
Dans l'exil de
Babel. Il était comme Satan. À la fin, on est sorti grâce. Grâce à ça, on était sauvé. Maintenant arrive l'exil dans lequel on est.
Édom.
Et c'est ce qu'il dit. On va aller tout de suite aller à Édom. Je vais vous dire où c'est marqué. On va aller pratiquement à la fin. Il y a marqué à Dalet. À la fin.
Dalet, on y est.
C'est la page. Vous voyez, il y a un numéro de page en bas, en haut en hébreu. Taf Nun Chet. Taf Nun Chet, 458.
Il y a marqué Gimel en haut et en dessous Dalet.
Il y a marqué Atam.
Monsieur Anou Yoder Lichol.
Vous l'avez? Monsieur Anou Yoder Lichol. Areou Keneged Galut Edom. Agalut Anoraa Ba El Lanou Lotora Velo Chokma. Wallo. C'est ce qui se passe maintenant. Wallo. C'est-à-dire maintenant, vous parlez à quelqu'un de Torah. Vas-y, mais t'es normal. Qu'est-ce que tu me demandes?
On a la 49e.
Qu'est-ce que tu me demandes? Hein?
On a la 49e.
Je pense pas. Mais on est dans un endroit.
Non, ce serait bien.
Il n'y a plus de questions. Hein?
Ce serait bien d'être la 49e.
La Géoula bientôt.
Il faut savoir que la Gemara, elle dit Ashrechem, Israël, Oy, Laem, les générations qui seront les générations du Mashiach. Alors, on est en train de demander à chaque fois Bemea Benou, Yavoua, Mashiach. Mais je peux garantir que celui, comme je vous dis tout à l'heure, il faut s'accrocher aux mains. Mais il faut s'accrocher fortement aux mains. Parce que quand on se rapproche de la délivrance, je peux vous dire que les vagues, c'est plus de 10 mètres. C'est ce qui se passe maintenant. Regardez maintenant le combat. Vous avez des gens qui ont une kippa sur la tête, qui viennent vous faire des démonstrations, d'accord, qui relèveraient de l'avodazara du temps des Gemara. De l'avodazara, mamache, d'accord. Et vous allez expliquer, d'accord, je ne vais pas faire de portée de jugement sur des problèmes politiques, parce que je pense que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige. Alors, comme on dit dans la Torah, on dit Lev Melech B'Yad Hashem. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui dirigent le peuple juif, ils pensent qu'ils dirigent le peuple juif. C'est quelque chose qui le dirige. En fait, on est dans une génération, le Gemara de Sanhedrin dit qu'on est la génération du chien. Vous avez déjà vu un chien comme il fait? Un chien, qu'est-ce qu'il fait? Quand un chien, il avance devant son maître. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne constamment pour voir où il est le maître. Nous, nos hommes politiques, les hommes politiques qui nous dirigent, c'est exactement comme des chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent, ils se retournent pour regarder. Pourquoi? Parce qu'ils vont être réélus ou pas réélus. Comprenez, c'est le siège. Ça me rappelle, il y avait un dessin dans les Haronot. Après, il y avait Yosef Bourg, c'était le père d'Abraham Bourg. Ouais. D'accord? Une fois, ils ont fait un dessin dans les changements de gouvernement. D'accord? Et lui, tous les gouvernements qu'il y avait, de droite, de gauche, il était toujours là. D'accord? Et un jour, on le voit, il a pris sa chaise. Et quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais aux toilettes. Il avait pris la chaise avec lui, pour pas qu'on lui prenne. Alors, c'est ça le problème des hommes politiques. Etc. On est dans une génération maintenant où il y a un Torah, un Chacham, il n'y a pas le temps de réfléchir. Je vous ai dit, c'est la génération où tout est prêt. Consommer, tout est prêt. On vous amène les choses, elles sont déjà prêtes. On n'a pas besoin de travailler, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de Amal à Torah. Amal à Torah, Nigmar. Tout le problème qu'on apprend, et c'est ce qu'on apprend à un enfant le soir de Pessah, au contraire. On apprend justement à l'effort de la compréhension. Et il faut parler. Et même si dit la Torah, on n'a personne à qui parler, on se parle à soi-même. Parce qu'on est nous-mêmes Banim Hashem. On se parle à soi-même. Nous-mêmes, on a des questions. Et comment sont grandes les questions dans l'exil des Dômes dans lequel on est, dans lequel la colme est boulebale. La colme est boulebale. Vous allez n'importe où. Les valeurs sont inversées.
Ah oui,
on vient vous donner, que ce soit en Israël, enfin en Israël, vous allez en France, des valeurs sur le mariage, sur la famille. c'est n'importe quoi. Tout et n'importe quoi en même temps. Les valeurs sont décidées sur des critères politiques de réélection. C'est-à-dire, en fait, la vision est une vision de 4 ans, 3 ans, 4 ans maximum, de l'intérêt. Ce qu'on appelle une négia. Négia, quand vous allez voir un sage, un jour on est allé voir le Rav Char. Vous connaissez le Rav Char ?
Ah, c'est
vraiment le bracha. Le Rav Char a eu 2 arrière-petits-enfants. D'ailleurs, 2 ninim, qui sont nés en même temps des jumeaux. D'accord ? Donc, le fils du Rav Char n'était pas comme le Rav Char. Il était docteur, médecin. Il y avait une fille qui était charédite comme lui, qui se mariait avec un Roche Kollel, qui avait des enfants, etc. Mais son fils était un médecin qui avait une kippa comme vous avez vous. En tout cas, un homme religieux. D'accord ? Puis, c'était le fils du Rav Char. D'accord ? Et je vous dis que c'est un Tamid Chacham. Cet homme-là, il a eu un fils. Un fils, etc., il avait des enfants, et un de ses fils était Kollel, dans un Kollel. Malgré le fait qu'il était, il avait un fils qui était dans un Kollel, chapeau. Voilà que ce fils-là, il a eu un enfant qui a eu des jumeaux. Et les jumeaux, il est allé voir son père et il dit, je voudrais que le Rav Char, l'arrière-grand-père des bébés, soit le Moël. Il est allé voir le Rav Char. Alors il dit, Kvod Arav, papy, voilà. Donc, on a son fils qui était le grand-père. Le grand-père est allé voir son père et il a dit, papa, voilà, j'ai eu des nechadim. Mon petit-fils veut que tu sois le moël. Le sandak. Le sandak d'un des deux. Le rav, il a dit, qui c'est le deuxième sandak? Il a dit, c'est moi. Moi, je suis le grand-père, toi, tu es l'arrière-grand-père. Toi, tu es le premier, moi, le deuxième. Je donne la réponse demain matin. Il est passé la nuit. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il dit, ah papa, non. Il a dit, voilà, j'ai réfléchi. Ou je suis le sandak des deux, ou je ne suis pas le sandak de personne.
Ouais.
Il a dit, d'accord, mais pourquoi? Et regardez la réponse du Rav Char. Regardez la puissance de vision. Il a dit, quand le petit va grandir, un, il va dire, mon sandak, c'était Rav Char. Et l'autre, il va dire, mon sandak, c'était lui. Il a dit, je suis ou le sandak des deux, je suis pas de personne. Ça s'appelle une vision. C'est pas une vision de McDonald's, c'est une vision à long terme. La Torah est une vision à très long terme, c'est une vision d'éducation. Et toute la base de la Haggadah est un système éducatif d'une puissance qu'on n'a pas, on a pas l'équivalent. La preuve, c'est que depuis des millénaires, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et on est encore là pour le faire. Et grâce à Dieu, si Dieu veut. Dans une semaine, moins d'une semaine, on sera attablé à la table et on répétera les mêmes mots qu'ont répété mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., de génération en génération. Alvaï, qu'il y ait une chose, qu'on ne se concentre pas sur la partie entre le Maguide, qu'on appelle Shulchan Ourech, que tout le monde là-bas s'est spécialisé à la Chot. Tu vois, tout le monde connaît la Chot de Shulchan Ourech. C'est que la psouka, la soupe, je ne sais pas quoi. Ça ils sont bien. Mais psouki. Mais ce qu'il y a des deux côtés de la Haggadah, c'est... Non. D'accord ? Be'ezrat Hashem. Donc, vous avez la vision comme ça, quand vous allez lire ce passage-là des Arba Banim, vous avez une vision...
Simcha, c'est déjà pas mal.
Hein ?
On sera
Bessimcha, Be'ezrat Hashem.
J'ai deux questions.
Allez-y.
La première question que j'ai, c'est... Finalement, quel est le positionnement du Tikkun par rapport au Mashiach ? C'est-à-dire, on doit faire le Tikkun. D'accord. Une fois que le tikkun est fait, le Mashiach il arrive.
Il arrive.
Ah, pourquoi faire? Puisque le tikkun il est fait.
Non, le tikkun il est fait, ça veut dire en fait on est arrivé dans une madriga.
Voilà.
D'accord. Où après on a quelqu'un qui nous dirige. Comme le Am Israël est sorti d'Égypte, il y avait quelqu'un qui nous dirigeait.
C'est le Goël.
À quoi ça sert qu'il y avait un Kohen Gadol aussi, etc. Du temps du Beit HaMikdash?
Oui, mais on va faire quoi? Si le tikkun est fait, il n'y a plus rien à faire, puisque c'est le rôle de l'homme, c'est de venir ici pour faire le tikkun.
Non. Le tikkun correspond à ce qu'on appelle une prise de conscience par rapport à la Torah. C'est ça le tikkun. D'accord ? C'est participer. Maintenant, il y a 1000 ans de tikkun. Je ne vous ai pas dit la fin dernière. C'est pas, vous ne rentrez pas dans la génération du Mashiach du jour au lendemain. D'accord ? Il y a une révélation d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a quand même un meneur qui est un intermédiaire. Même le Am Israël, dans le désert, lorsqu'ils ont reçu la Torah et qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux, ils n'ont pu supporter que les deux premiers commandements. Comment c'est possible ? Alors que Kadosh Baruch Hu leur a parlé. Et ils ont eu besoin d'avoir un intermédiaire qui était Moshe Rabbeinu pour supporter. Tout le monde avait la Neshama de Moshe Rabbeinu. On n'a pas la Neshama de Moshe Rabbeinu. On a des certains niveaux. Pour arriver à cette gradation, d'accord, terminée, c'est ce qu'on appelle un kipoul. Vous comprenez ça maintenant. Un kipoul des Olamot sous Olam Hatzilut, il va nous falloir plus de 1000 ans. Parce qu'on est dans le sixième millénaire, il va y avoir le septième millénaire, après il va y avoir le huitième, le neuvième et le dixième. En fait, il y a 10 millénaires. On n'a aucune notion de ce que c'est que le huitième, septième, huitième, neuvième. On sait ce que c'est que le... Pardon, huitième, neuvième, dixième. On sait ce que c'est que le septième millénaire, c'est le millénaire de Mashiach. On demande à Mashiach. Ce qu'on nous demande aussi, c'est qu'il ne vienne pas sous forme de Shem Elohim, qu'il ne vienne pas sous forme de Darba. Qu'on l'accueille, comme Ibn Adam, qu'on l'accueille, Bekavot, qu'on soit même apte à pouvoir comprendre ce qui vient. Parce que sachez une chose, le jour où viendra le Mashiach, la place où vous êtes assise à la synagogue, elle vaudra des milliards en dollars. Parce que tous les peuples voudront rentrer dans les synagogues. D'accord ? La Gemara raconte que l'endroit où vous êtes assis, nous maintenant, on est Mezalzel. Combien ça coûte une place à la synagogue ? Hein ? Une place à la synagogue, vous avez 500 shekels, vous avez une place à la synagogue avec votre nom joli, bien indiqué. Du temps du Mashiach, ça vaudra une fortune. Ça vaudra plus qu'un penthouse en plein 5e avenue à New York. Ça vaudra une fortune. Tout le monde voudra. Tout le monde en entrée. Accès réservé. Vous aurez votre accès, vous, en tant que représentant du peuple juif. On vendra. Et on raconte que les goyim viendront embrasser les petites katanes des juifs. Ils vont les embrasser. D'accord ? Tov. Il nous reste du travail. Comme vous avez pu constater, il nous reste du travail. Déjà, chez nous, il reste du travail.
Je peux poser ma deuxième question ?
Vas-y.
Je peux poser ma deuxième question ?
Vas-y.
Finalement, on a parlé des quatre. On a parlé des quatre. Le Racham jusqu'au Tam, en passant par le Racha et tout ça. Et finalement, le Rabbi Lubavitch dit, il y a le cinquième. Le cinquième, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que le Racha, il est là, il participe au débat. Mais le cinquième, il n'est pas là.
En fait, ce qu'il veut dire, Rabbi Lubavitch...
Celui-là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il ne pose pas de questions. Il est déjà en dehors du débat.
Là, vous faites déjà une parchanoute. Ce que parle le Rabbi Lubavitch...
Toi, tu n'es pas le cinquième, en tout cas.
Non. Il parle d'une autre chose. Il y a dans l'herba kosot. Vous avez remarqué que les Arba Kossot vont correspondre aussi aux Arba Banim, qui vont correspondre aux Arba Galouyot, les Arba Kossot. Et les quatre Kossot correspondent aux quatre termes de délivrance qui sont cités dans le parachat de Bo. Bitsalti, Vigaalti, Eviti. Par contre, il y a un cinquième terme qui n'est pas cité dans la Haggadah. Le cinquième terme, comme là, Eviti Otam, l'Eret Israël. Je les ai amenés en Eret Israël. Donc vous voyez que dans la Haggadah, on ne parle pas de venir en Eret Israël. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir en Eret Israël. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire que c'est quelque chose qui est mouvant de mes élèves. À partir du moment où on a atteint les quatre, d'accord, on arrive à ce cinquième niveau. Alors, moi, la réponse que je vous dis, pour traiter le cinquième dont vous me parlez, qui n'apparaît pas dans la Haggadah, il faut au moins qu'on soit capable de comprendre, d'avoir maîtrisé les quatre compartiments du peuple d'Israël, au moins ceux qui sont là prêts à écouter, même s'ils sont contre nous. Autrement dit, c'est ce qui est écrit. Ils disent nos sages, Pessah, ils disent Rabban Gamliel dans la Haggadah. Kol Michelo Omer, Shlosha Devarim Elu, Velo Hen, Pesach, Massa Omaror, le etc. D'accord ? Vous ne dites pas ces trois mots, vous n'êtes pas acquitté du Seder de Pesach. Il dit, le Rabban Gamliel, il veut dire la chose suivante. Pesach, Zegematria, si vous remplissez le mot Pesach, P, vous l'écrivez Pehe, Samer, vous l'écrivez Samer, même Chaf, V, et Chet, vous l'écrivez Chet, Taf. Après, vous écrivez le mot Maror, c'est Pessah Malé a une valeur numérique de Tariag. 613. D'accord ? Donc Pessah correspond à ce qu'on appelle au Tzadik.
Correspond, hein ?
Au Tzadik. Maror, c'est la gématria de Mavet. C'est la gématria de la mort, Mavot. Maror. D'accord ? J'ai tout à l'heure en rigolant, j'ai dit aussi la gématria de Tel Aviv, mais des fois, ce n'est pas une blague. Mais Maror, gématria Mavet, ça correspond au qu'on appelle au Racha. Et le Benoni, ça correspond à ce qu'on appelle à la matzah. Là, pourquoi ? Parce que la matzah est appelée l'echem oni, un pain de pauvreté. D'accord ? Maintenant, il y a marqué dans le passou que l'on dit le soir de Pessah. Odou la chaîne kitov kilom chazdo. Qu'est-ce qu'on dit ? Batsar ou mimotsekotehem mimtsolov. Vous savez le passou que l'on dit, le mizmor que l'on dit le soir de Pessah. Mais avant, on dit batsar.
Batsar
ou batsar ou mimotsekotehem yotzilem. Batsar, c'est otiyot bet benoni, tzadik. De tzadik, veresh, de racha. Et dire à Rabban Gamliel, tout celui qui n'a pas réuni les trois, racha, comme vous savez que dans la Ktoret, il y avait toujours un élément qui était la levona,
Helbena,
qui était à côté de la levona, qui était écrit presque pareil, comme le matzah et la hametz, il s'écrit presque pareil, d'accord. La Helbena, c'était un truc, c'était un des samamanim, un des encens qui sentait pas du tout bon, qui était même dégoûtant. Il fallait l'associer aux autres. C'est comme le soir de Kippour, notre filet est accepté C'est ce qu'on dit de Tzibour. Tzibour en hébreu, c'est écrit sans le vav. C'est tzadik, betresh aussi. Comme Batsar. Un Tzibour, c'est à tout le monde. Si on est capable, il dit Rabban Gamliel, le soir de Pessah, d'accord, de réunir tous les pans du peuple juif, et Tzedechova. Alors là, je peux vous dire, monsieur Koubi, vous pouvez vous occuper du cinquième. Ça cache beaucoup, vous le sert sur un plateau. Mais tant que nous, on n'a pas réglé le problème d'unité que l'on a entre nous, de Hardout, Bichlal, Almam Duba, on n'a pas allé plus loin.
Bon, on peut parler du prochain cours. Hein? Ah oui.